La France sort exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements ont provoqué de nombreuses destructions d'infrastructures, d'usines et de logements. En 1961, Bourvil interprète C'était bien, une remémoration nostalgique de ces temps difficiles où tout était à reconstruire.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient. Dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
Les problèmes de ravitaillement sont nombreux, ce qui vaut au ministre Paul Ramadier le surnom peu charitable de ramasse-miettes. Le rationnement ne prend fin qu'en 1949. Mais l'immense effort de reconstruction accéléré par l'aide américaine du plan Marshall permet de sortir de cette période de vache maigre pour entrer de plein pied dans ce que Jean Fourastier nomme les Trente Glorieuses. Presque trois décennies de forte croissance économique et de plein emploi. Le nombre de paysans diminue et l'exode rural bat son plein. L'urbanisation s'accélère. De grands ensembles apparaissent dans les banlieues des grandes villes pour accueillir de nouveaux habitants. La France s'industrialise et le nombre d'ouvriers augmente. Le manque de main-d'œuvre pousse les autorités à faire appel à l'immigration étrangère. Pour les nouveaux venus, les conditions de vie restent précaires.
Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas ? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur.
Je me présente, voici.
Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place Guido Origino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire j'en ai bavé. De la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites.
La chanson « Le bruit et l'odeur » de Zebda rappelle avec justesse le rôle fondamental joué par les travailleurs immigrés dans la reconstruction de la France, ainsi que l'accueil teinté de xénophobie de la part des autochtones. L'augmentation du niveau de vie permet aux Français d'entrer dans la société de consommation. Les ménages s'équipent et se dotent de toute une panoplie d'objets plus ou moins utiles, dont se moque Boris Vian dans sa « Complainte du progrès » en 1956.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs.
Avec la baisse du temps de travail, les Français peuvent également désormais pratiquer des loisirs et partir en vacances. Pourquoi pas bord de la mer, comme la famille Jonas? Si l'on se fie à la date de naissance du chanteur, on peut estimer que ses vacances se déroulent à la fin des années 1950 ou au tout début de la décennie suivante, à une époque où la croissance économique permet aux familles modestes d'accéder à leur tour au tourisme de masse, à condition de ne pas faire trop d'écart.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent.
De 1945 jusqu'à la fin des années 1960, une femme a en moyenne 2,5 enfants contre 1,5 avant la guerre. Plusieurs facteurs l'expliquent. Les couples se retrouvent après des mois de séparation. La perspective d'un monde en paix et prospère incite également à procréer. Cependant, toutes les naissances ne sont pas désirées. Avec la loi de 1920, Antoine revient sur les grossesses subies et la détresse de familles trop nombreuses. Une situation qui s'explique par l'impossibilité d'accéder aux moyens de contraception ou d'avorter.
Chaque année, un autre enfant naissait. Comment aurait-il pu l'éviter? Il y a 365 nuits dans une année. Et pourtant...
Le baby-boom entraîne un rajeunissement de la société française. Le nombre de lycéens et d'étudiants s'accroît énormément. À partir des années 1960, la jeunesse autonomise et développe sa propre culture avec ses codes, ses vêtements, mini-jupes, jeans, sa manière de parler, sa musique, rock. Le grand concert organisé Place de la Nation à Paris le 22 juin 1963 par Europe 1 voit triompher la génération yéyé et l'idole des jeunes, Johnny Hallyday.
Les gens m'appellent l'idole déjeune. Il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie.
Une nouvelle tranche d'âge semble faire son apparition, l'adolescence, dont les représentants entendent remettre en cause le carcan scolaire, professionnel et parental. Ne supportant plus de s'entendre dire à longueur de journée
« Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid ou sinon gare à toi, mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman, fais pas ci, fais pas ça, ah tada, prout prout cadet !»
Cette jeunesse est aussi parfois plus contestatrice. Lors du mouvement étudiant de mai 1968, lycéens et étudiants réclament davantage de liberté et de reconnaissance. Évariste s'en fait l'écho dans sa chanson « La faute à Nanterre » en 1969. Avec retard, la loi tente de s'adapter à ce coup de jeune. En 1974, le droit de vote et la majorité sont abaissés à 18 ans. En 1975, la mixité scolaire devient obligatoire dans les établissements scolaires publics. Au cours de la période, les femmes partent à l'assaut de la société patriarcale environnante. Avec l'augmentation du travail salarié féminin à partir de la fin des années 1960, elles revendiquent et obtiennent des droits nouveaux, conduisant à une plus grande émancipation à l'égard des hommes. Une loi de 1965 reconnaît la possibilité pour les femmes de travailler et d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. En 1970, l'autorité paternelle est remplacée par l'autorité parentale conjointe. Cette même année, le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, multiplie les actions visant à atteindre une véritable égalité homme-femme. L'hymne des femmes, entonné lors des manifestations, est un appel à se tenir debout.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous.
De haute lutte, elles arrachent à l'État le droit de disposer de leur corps par la légalisation de la contraception en 1967 et la possibilité d'avorter par la loi Veil de 1975. Avec la pilule d'or, Sœur Sourire compose une ode aux petits comprimés qui changent la vie des femmes.
Quand nos grands-mères se mettaient en ménage, on leur disait, ma fille, sois bien sage, sois soumise à ton mari, mais au monde, une grande famille. Les enfants que Dieu t'envoie, accueille-les dans la joie. La pilule d'or est passée par là. La biologie a fait un nouveau pas.
Les modèles familiaux se transforment. La famille traditionnelle composée d'un couple avec enfants coexiste désormais avec les familles monoparentales ou recomposées. Le nombre de naissances en mariage et de séparations explose. En 1973, la chanson « Les divorcés » de Michel Delpech perçoit les mutations à l'œuvre en décrivant une séparation apaisée entre deux anciens époux. Deux ans plus tard, la loi de 1975 autorise le divorce par consentement mutuel.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire.
Malgré la persistance des inégalités, notamment professionnelles, les femmes accèdent à des métiers dont elles étaient jusque-là écartées. En 1983, une loi sur l'égalité professionnelle interdit la discrimination en raison du sexe. Avec Michel Sardou, la caricature a en revanche de beaux jours devant elle.
Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, et
être un général d'infanterie. Rouler des patins ou qu'on se crie enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils.
Sur le front économique et social, la situation se dégrade très fortement. Les Trente Glorieuses cèdent le pas aux vins piteuses. Le ralentissement de la consommation, le choc pétrolier provoque un processus de désindustrialisation. L'emploi ouvrier entame une hémorragie qui dure encore. Le chômage, marginal jusqu'alors, s'installe durablement. En 1978, « Il ne rentre pas ce soir » d'Eddie Mitchell narre le licenciement d'un employé et des conséquences sur sa vie familiale.
Vous êtes dépassé et du fait vous êtes remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Une frange très importante de la société plonge dans la pauvreté et tire le diable par la queue, ne survivant que grâce au revenu minimum d'insertion créé par une loi de 1988 ou grâce aux associations caritatives. En 1985, Coluche fonde les Restos du Cœur. Son complice, Jean-Jacques Goldman, lui compose une chanson dans laquelle il s'adresse à ceux qui n'ont rien.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage.
Jusque-là courtisés et indispensables à la reconstruction du pays, les immigrés deviennent des parias avec le retournement de la conjoncture économique. À partir de 1974, les autorités décident de fermer les entrées à l'immigration de travail. Dans Lily, Pierre Perret insiste sur le fait que les immigrés sont cantonnés dans des emplois durs et pénibles.
On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily.
Les taux de natalité et l'indice de fécondité des femmes françaises baissent. Le baby-boom de l'après-guerre, suivi d'une chute du nombre de naissances, est transformé en papy-boom. Les non-tropos ne peuvent ainsi que constater le quadrillage du troisième âge.
Tous les dimanches après l'office, on va faire un tour à l'office. On y retrouve tous les petits vieux, c'est vrai qu'ils y sont tellement mieux. Ils préféraient voir leurs enfants, arrière-petits déjà bien grands, qui pensent à eux affectueusement, visser devant les copines.